8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Salut à vous tous, Yann Egan au micro de Milan Stéréo FM. J'espère que vous allez tous très très bien. Justement, précisément, quand les DJ se mettent à chanter maintenant dans les disques ou quand ils se mettent à parler pour faire le rap à la française, alors c'est qu'il s'appelle Mickey Milan. Lui s'appelle Mickey aussi, avec Quand tu danses. Attention les filles, vous allez chanter au top départ, top départ. Ouais.
Qui bouge, qui balance. Yann Egan, bonjour. C'est un double bonheur pour moi de vous recevoir ici sur Radio Covicho. Tout d'abord parce que bon, vous me l'aviez confié il n'y a pas très longtemps, vous n'accordez pas beaucoup d'interviews.
Oui, c'est vrai.
Et je vous en suis d'autant plus reconnaissant que pour Radio Covicho, vous avez accepté exceptionnellement.
Ben, c'est gentil. Je ne dis pas que je n'accorde pas d'interview parce que je me prends pour la star des stars, pas du tout. C'est que évoquer toujours des bons moments, eh bien, je le fais une fois, deux fois, puis après, ça devient un petit peu lassant. Mieux vaut interviewer des stars de la chanson ou des grands comédiens. Donc, c'est pas du tout de la prétention de ma part.
Alors, j'imagine bien. Double bonheur, parce que, au même titre que mon ami Jackie Gallois, qui sévit toujours à Europe 1.
Il faut déjà qu'on envoie un petit salut amical à Jackie Gallois, qui est un garçon non seulement adorable, mais qui est un garçon qui est pétri de talent. Disons-le franchement, tout de suite.
Ah ben, il sera content de l'entendre.
Absolument.
Suis tout à fait d'accord avec vous. Et on a eu la même évocation, c'est-à-dire qu'on a dit notre vocation radiophonique s'est révélée dès notre adolescence à l'écoute de Yann Egan. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah, ça c'est très gentil, puisque moi-même j'ai fait la même chose avec quelques années de plus. Donc remontons le passé, lorsque j'étais enfant, moi aussi des gens m'ont inspiré. Il y a eu deux grandes personnalités très 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 différentes. Ceux qui ont la cinquantaine, voire plus, vont se souvenir d'un personnage exceptionnel de la radio, extraordinaire, qui s'appelait le président Roscoe, et d'un autre personnage que j'ai rencontré enfant, en tant que touriste, où j'étais un petit auditeur, c'était Pierre Bellemare, qui était d'une stature extraordinaire. Donc deux styles radiophoniques qui n'ont rien à voir, bien sûr. Donc quand on est enfant, eh bien, on est marqué parfois par des images de marque, qui peuvent totalement déclencher un processus de vocation.
Alors vous êtes conscient que vous avez suscité l'amour de ce métier pour beaucoup de gens ?
En fait, oui, ça me fait plaisir. Quand on entend ce genre de phrase, on se dit, mais mon Dieu, on me prend pour qui? Mais en vérité, il faut savoir que lorsque je faisais de la radio, dans un premier temps, je ne pouvais pas exactement faire tout ce que je voulais, parce que c'était la radio un peu à l'ancienne, où il y avait d'un côté les techniciens, les réalisateurs, les animateurs, les assistants, les programmateurs, et quand tu arrives là-dedans, tu te dis, mais moi tout ça, c'est le même métier pour moi, je ne fais pas de distinguo, et quand tu te mets à vouloir tout faire, en l'occurrence à faire de la radio, bah tout de suite, il y a des gens qui t'en empêchent un petit peu, en disant, attends, t'es animateur ou t'es réalisateur? T'es réalisateur ou t'es technicien? T'es technicien ou t'es programmateur? Et tu leur réponds, tout ça en même temps. Ah, mais on ne peut pas tout faire, jeune homme. Ça, je l'ai entendu très souvent. Donc, assez modestement, j'ai essayé de faire ma petite place et puis peut-être de créer aussi un style radiophonique, sans me dire du tout, je vais créer un style. J'avais envie de faire une radio à mon oreille et c'est ce que j'ai fait.
Alors, ça me retourne dans mes années d'enfance où vous animiez une émission qui s'appelait Drugstore.
Ah, Drugstore était une émission passion. Que je dois justement à Pierre Bellemare, à qui j'avais dit, lui venant de devenir grand patron des programmes de Europe 1, je lui ai dit, voilà Pierre, ce que je voudrais, mais qu'est-ce que tu veux? Eh bien moi, ce que je voudrais, c'est faire la radio que j'aime, à ma manière. Et tu veux faire comment? Eh bien, je veux faire ma radio tout seul. Tout seul? Mais ouais, il te faut une équipe. Non, je veux pas, je vais tout seul. Enfermez-moi dans un studio, laissez-moi à la console, laissez-moi faire ma radio à moi. Oui, mais il faut quand même un programmateur, un technicien, chose que j'entends. Je veux personne. Mais tu peux pas, on peut pas faire ça tout seul. Moi, je veux le faire tout seul. Oui, mais à Europe, ça va être un peu difficile. Alors je dis, mais pourquoi pas le Drugstore des Champs-Élysées? Alors finalement, il m'a rempli 3-4 heures après. Il m'a dit, c'est d'accord, ça sera pas le Drugstore des Champs-Élysées, ça sera le Drugstore Publicis Matignon. Et il me dit, on va te construire un studio. Il me dit, mais attention, je prends des risques. Je vais aller te voir. Et voilà, l'émission a duré plusieurs années, où je faisais mon petit show tranquille, et j'étais vraiment heureux comme un roi. Pourquoi? parce que je venais de réaliser un rêve de gosse, et où ça en étonnait plus d'un que je sache tout faire en vérité. C'est pas que je savais tout faire. C'est comme si on dit à quelqu'un qui adore les Ferrari, tiens, voilà une Ferrari, tu veux la conduire? Oui, oui, mais tu peux pas la conduire tout seul. Et pourquoi je la conduirais pas tout seul? Ah ben non, il faut un assistant conducteur, un mécanicien, et laissez tomber, je m'en occupe. Tu prends la Ferrari, tu roules tout seul, et tout le monde dit, oh, vous avez vu, il roule tout seul dans la Ferrari. Ben oui, alors, qu'est-ce que ça a d'anormal? Mais pour moi, c'était qu'est-ce que ça a d'anormal que je fasse une radio et mon émission tout seul. Et donc, ça a démarré vraiment là, quelques années après mes débuts radiophoniques, où je faisais des radios, des émissions plutôt traditionnelles. Et j'ai pu commencer à faire de la radio à ma manière. Et puis ensuite, ça a continué, perduré. Voilà.
Alors, Drugstore, c'était vraiment la première fois que les studios sortaient à l'extérieur de la station de radio?
Alors oui, c'est vrai. Alors il faut dire que j'ai eu un prédécesseur exceptionnel. Là, je vais dire un mot sur ce fameux Roscoe. Dans les années 60, aux alentours de 65-66, Radio Luxembourg, qui allait devenir RTL, avait engagé un animateur exceptionnel, qui s'appelait Roscoe. Histoire. Aux États-Unis, il y avait un disque jockey qui s'appelait Roscoe, qui était un noir. Et un animateur, un disque jockey, comme on l'entendait en radio, en Angleterre, a voulu prendre le même nom, lui a demandé l'autorisation, et c'est devenu cet autre Roscoe, donc il y en avait deux, cet autre Roscoe est devenu le fameux président Roscoe de RTL dans les années 60, et lui faisait son émission seul à la console, que ceux qui connaissent la radio me comprennent. Il avait un assistant qui s'appelait Sam Burnett, et il faisait un show exceptionnel. Évidemment, il était totalement aidé par la langue, car s'il parlait bien français, bon, il se plantait sur certains mots, mais avec son français anglais et son rythme extraordinaire, il a été véritablement le premier en France à faire ce type d'émission. Et puis quelques années plus tard, eh bien, j'ai en quelque sorte pris le relais avec un style assez différent, mais il faut savoir que ce grand bonhomme qui était Roscoe a, pour moi et pour des tas de gens, moi j'étais gamin, tu vois, comme toi tu l'as été quand tu voyais les émissions, on était émerveillés par voir ce type qui jonglait sur la console et qui prenait la console pour un piano, ce que j'ai fait plus tard.
Yann Egan, je le dis bien, pour tous ceux qui nous rejoignent sur Radio Cobichou, maintenant nous avons la chance d'être avec Monsieur Yann Egan.
Sans blague, c'est vrai, vous avez Yann Egan?
Oui,
là, c'est extraordinaire.
Avec nous. C'est extraordinaire. Alors on va continuer parce que dans les années... vous avez travaillé à Europe 1 entre 1973 et 1987.
Oh là là, mais c'est tout, il sait tout. Mais oui,
je sais,
oui.
Je sais tout, mais justement, j'ai regardé un petit peu sur Internet et il n'y a pas grand-chose sur Yann Egan. Comment ça se fait? On ne parle pas de Yann Egan.
C'est simple, dès qu'il y a une information sur moi, j'envoie des tueurs et on les bute.
Alors voilà. Moi, j'ai trouvé des choses qui sont édifiantes, puisque c'est simplement des témoignages de gens qui disent, par exemple, je ne suis sans doute dans les années 80 pas le seul à avoir vibré au son de la voix de cet ancien animateur d'Europe 1. Il a marqué toute une génération d'auditeurs. Ils disent, j'aimerais savoir ce qu'il fait aujourd'hui. Yann Egan, animateur génial qui hante encore mes souvenirs d'adolescent amateur de funk. Il est animé mais entre autres le hit des clubs sur Europe 1 le samedi soir. Il y a beaucoup de gens qui témoignent et qui disent, voilà, qu'est-ce qu'est devenu Yann Egan? Où il est cet animateur emblématique des années 70-80?
Mais voilà, c'est la question que je voulais te poser, mais où il est? Qu'est-ce qu'il est devenu? Mais enfin, bon sang, est-ce que sa voix a vieilli? Et moi aussi, je le cherche partout et finalement, je me demande si on ne va pas le retrouver un jour. Franchement.
Ah oui?
Franchement.
Est-ce que vous pensez que ça lui dirait de travailler sur des radios telles qu'elles sont maintenant?
Non, c'est pas possible parce qu'en fait, il demande tellement cher. C'est un garçon qui doit au moins par émission demander 2 ou 3 euros. C'est pas possible, on ne peut pas payer quelqu'un aussi cher. C'est évident, c'est beaucoup trop cher.
D'abord.
2 ou 3 euros quand même, faut les sortir. Hein. Bon, rigolons un peu, mon cher Kobe.
Mais absolument. Alors, ça plante ma question suivante, parce que ma question suivante que j'avais, elle était très simple, c'est est-ce qu'un jour, vous reviendrez derrière un micro?
C'est possible, pourquoi pas, c'est possible. J'ai eu, c'est vrai, pas mal de propositions, mais qui ne me convenaient pas vraiment, parce que c'était souvent des petits, sans être prétentieux le moins du monde, j'insiste. C'était des radios qui n'étaient pas à Paris, ça demandait des déplacements qui n'étaient pas complètement simples, les locaux n'étaient pas, c'était pas exactement ce que je souhaitais. Je veux dire que quand tu fais une émission, au moins avoir des conditions relativement correctes, c'était pas toujours ça. Donc je me suis dit, refaire de la radio en 10 fois moins bien, répondons simplement avec beaucoup de gentillesse non, plutôt que de revenir des années après et à faire c'est un peu comme si t'étais, comme si Alain Prost revenait aujourd'hui, on lui file une vieille bagnole, on dit allez montre-moi Prost comment tu conduis, mais il dit je peux pas, il veut vexer personne, eh bien il a pas envie de conduire une vieille bagnole pourrie. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas accepté. Et par contre, d'autres projets que j'avais n'ont pas forcément réussi dans des radios plus importantes. C'est la raison pour laquelle aussi, étant, mais tu l'as, je crois, déjà bien compris au travers de ce que tu disais tout à l'heure, j'ai préféré ne pas me mettre en avant en disant « Ah, je ne fais pas de radio, j'aimerais bien en faire, c'est pas trop mon genre. » Tu sais, en fait, je crois que la vraie réussite, Arnaud, c'est pas tellement d'être à la mode, c'est de devancer la mode. Quand tu devances la mode, tu rames au début ce que j'ai fait, puis après on dit « Ah oui, mais vous avez été leader ». Ben, t'as raison, t'as été leader. T'as ramé pendant un certain temps, quelques mois ou voire quelques années, et enfin, ça y est, tu montres ce que tu sais faire. Alors, il se trouve que les grandes radios avaient moins besoin des émissions comme celles que je pouvais faire, même réactualisées. Et quant à des toutes petites radios, bon, ça m'intéressait un petit peu moins, évidemment.
Mais quand vous avez arrêté d'animer, ça a été votre décision personnelle ?
Non, je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Disons, on va dire d'une manière assez diplomatique, que je ne me suis pas vraiment entendu avec celui qui avait pris les rênes de ma chère station Europe 1 en 1987, et ce qui m'a conduit de partir.
D'accord, ce qui est bien dommage. C'est bien dommage.
Oui, c'est vrai. D'autant que Europe avait réalisé mon ultime rêve d'enfant, à savoir qu'une radio, en l'occurrence Europe 1, me construise dans les locaux d'Europe 1 un studio pour moi tout seul. Oh, que c'est prétentieux. Et en fait, c'était un rêve de gosse. Et ce rêve de gosse est devenu réalité, si ma mémoire est bonne, en 84 ou 85, où tout le service de la technique d'Europe 1, qui était des gens vraiment exceptionnels, j'ai fait les plans du studio et ils ont été bien au-delà de ce que je voulais. Donc j'étais évidemment heureux comme un roi en étant, c'est vrai, un peu un état dans l'état, compte tenu que je travaillais dans toutes ces années-là en occupant toutes les fonctions, ce qui fait que j'avais du mal à m'engueuler avec le réalisateur de l'émission puisque c'était moi. Voilà. Oui. Et quant aux techniciens, c'est sûr qu'ils montaient aux ordres. Ben oui, c'était moi aussi. Donc en fait, tu dois savoir ce que c'est qu'avoir ce plaisir de pouvoir évoluer dans une radio où, en fait, j'étais quoi, résumons-le. Est-ce que je savais faire tant de choses? Non, j'étais simplement comme un pianiste. On le met devant un piano, on lui dit « vas-y, joue ». Mais le pianiste, il n'est pas accordeur. C'est-à-dire que s'il y avait un problème technique, immédiatement, on faisait venir un technicien, un vrai technicien, qui, lui, démontait la console de mixage, tous ces détails techniques. Ça n'était pas mon rôle. Mais dans l'application, dans l'exécution, oui, c'est vrai que je m'amusais comme un petit fou. Et puis, il faut savoir, et tu l'as bien compris, j'avais le feu sacré.
Yann Egan, vous avez eu la passion aussi de tout ce qui était jingle. Vous avez fait partie d'une société qui s'appelait J.M. Stewart, si je me souviens bien.
Alors, je n'ai pas été dans la société de notre ami Jean-Michel Stewart, que je n'ai pas vu depuis fort longtemps, mais il m'avait dit un jour, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un disque de jingle ensemble ? J'ai dit, oui, pourquoi pas. Et on va le faire à 55 ans. Donc, on a produit ce disque. J'avais pris, à l'époque, deux choristes qui étaient tout à fait exceptionnels, qui s'appelaient Georges et Michel Costa, qui étaient vraiment les number one dans ce genre de choses. Et avec Michel, eh bien, et Georges, ces deux choristes, nous avons mis au point un disque de jingle, et puis nous avons donc produit avec l'ami Jean-Michel Stewart ce disque de jingle. Et puis il y en a eu d'autres après que j'ai fait seul.
Oui, qui sont devenus cultes, notamment chez tous les disques jockeys de France et de Navarre.
C'est vrai, ce disque-là a été vendu à un certain nombre d'exemplaires. Oh, je te dis pas qu'il a été vendu à 1 million d'exemplaires, c'était pas fait pour ça. Hein. Mais comme j'avais beaucoup de demandes et des animateurs, des disques jockeys de clubs discothèques qui m'aimaient bien, puisque je faisais entre autres sur Europe 1, enfin je faisais tous les hit parades de la station, mais entre autres les hit parades des clubs, et c'est vrai que chaque fois que j'allais dans un club, il fallait que je me batte pour payer l'addition, quoi. C'était clair, même quand je venais en simple touriste. Et ça, c'était très agréable parce qu'il y avait des relations très chaleureuses et jamais prétentieuses. Et tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais joué la grande star qui arrive en disant « c'est moi », ce qui aurait été absolument stupide.
Qu'est-ce que vous pensez, pour terminer, de l'évolution de la radio, c'est-à-dire de la radio numérique, des web radios, des radios qui se multiplient comme ça à travers les ondes et les...
Alors, ce que j'en pense, c'est que des radios comme la tienne, par exemple, sont faites par des passionnés. Alors, il y a deux objectifs. Ou plutôt, il y a deux points de départ. Soit la radio est créée par un groupe financier qui, ce n'est pas leur rôle, n'y connaissent strictement rien dans la radio, en prenant un animateur ou deux ou trois ou quatre qui ont envie de faire quelque chose et ça donne rien. Ou alors, la radio est lancée par des gens comme toi, des vrais passionnés, et là, ça donne quoi? Ben, ça donne un ton. Ça donne un ton, et la mode, en fait, est régie par ceux qui aiment véritablement leur emploi. Et si tu aimes vraiment ce que tu fais et que tu te donnes à mort, eh ben, ça donne des résultats comme ceux que tu obtiens avec ta radio à l'heure actuelle sur le web. Et c'est un avenir qui, d'ailleurs, inquiète beaucoup les grands majors qui voient que la radio leur échappe un peu. Mais quelle radio? Mais la radio qu'ils faisaient avant. Alors, il y avait les radios généralistes, Europe 1, RTL, RMC, qui marchent énormément bien d'ailleurs. Mmh. Et puis, il y a aussi les radios FM, les radios dites musicales, qui, on le comprend bien maintenant, manquent énormément de contenu. C'est-à-dire que si le rôle de l'animateur est de dire top 2 points, eh bien voilà, c'était Julien Clerc, une chanson que nous aimons beaucoup. Je vous propose, dans quelques instants, il est 15h20, d'écouter maintenant Mylène Farmer, que nous adorons également. Point. J'arrête. Si c'est pour faire ça, reste chez toi. Voilà, ok, bon, c'est pas de la radio, ça, c'est, t'annonces une chanson, tu la désannonces, donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, tu l'annonces à la fin, et bon, c'est chiant, franchement,
sauf quand c'est Yann Egan qui le dit, hein.
J'en sais rien, mais bon, parce qu'on sent qu'il n'y a pas de passion, et quelquefois j'entends des FM, et je me dis, tiens, celui-là, il a vraiment une bonne voix, oui, mais, il n'a pas la pêche. En quelque sorte, mieux vaut un type qui va bafouiller, je crois que c'était Julien Clerc, peu importe, mais s'il a la patate, s'il a vraiment de la personnalité, à lui, on peut compter sur lui. Même si la voix n'est pas extraordinaire, la passion l'emporte sur la qualité vocale. Alors si en plus t'as la qualité vocale, que t'as la passion, alors là, on peut aller très loin, à condition d'avoir du courage et de savoir attendre son heure.
En tout cas, merci infiniment, Yann Egan, d'être passé par Radio Cobichaud. Sachez que vous êtes chez vous ici et que vous venez quand vous voulez. C'est un grand plaisir. Vraiment, c'est la passion qui m'anime et qui me permet de vous dire que c'est vraiment un réel plaisir de vous avoir entendu.
Et puis, on ne sait jamais. Peut-être que dans quelques temps, on entendra Radio Cobichaud number one.
J'espère. J'espère. Vous voyez, je vais la garder celle-là rien que pour le fun d'avoir votre voix qui dit ça. Oui.
C'est très gentil.
En tout cas, merci beaucoup, Yann Egan. À très très bientôt, j'espère. Et puis, je sais pas, vous aviez une phrase de prédilection quand vous quittiez les auditeurs?
Je ne m'en rappelle pas du tout. Si j'en avais une, je me rappelle. Ah oui, la petite phrase que maintenant certains animateurs utilisent pour essayer de marquer, comme le fait par exemple De Chavannes avec couvrez-vous bien. J'avais pas ça. Non.
Ouais, non, c'est où il y avait salut les petits clous, à bientôt, enfin des choses comme ça. Ça c'était l'époque où effectivement on ne savait plus trop quoi dire à la fin.
Oui, oui.
En tout cas, merci beaucoup. À très très bientôt.
Merci à toi aussi. À bientôt et bonne chance à ta radio.
Merci. Au revoir.